Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. En France, au début du 19e siècle, l'ancien monde est en ruine, le nouveau monde est en chantier. Les révolutions, l'indifférence, le vandalisme, la barbarie ravagent les édifices. Mais après la révolution, la volonté politique est de concilier l'ancien régime et la révolution. L'influence du romantisme, une lassitude à l'égard de l'antique et des voix nouvelles et puissantes comme celle de Victor Hugo ou passionnées comme celle d'Alexandre Lenoir convainquent de protéger le monde d'avant. Amateurs archéologues commencent à se passionner pour le Moyen-Âge, encore obscur, certes, mais encore enchanté, et vibrant des personnages superbes. Ils inventent alors la protection des monuments historiques. Et ce sont en effet deux d'entre eux que je voudrais faire surgir maintenant devant vos yeux, Viollet-le-Duc et Prosper Mérimée, dont une actualité consternante a réveillé les spectres. Et pour les invités, j'ai le plaisir de recevoir trois invités formidables. Françoise Bercé. Bonjour Françoise, comment allez-vous ?
Bien, très bien, grâce à vous.
Vous êtes chartiste, comme on dit.
Oui, voilà, c'est ça.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que j'ai fait l'école des chartes, voilà.
Oui, et qu'est-ce qu'on y apprend ?
Alors, on y apprend les disciplines auxiliaires de l'histoire. C'est très pompeux. Mais la découverte, c'est que quand on arrive à l'école des chartes, on s'aperçoit qu'on ne fait plus d'histoire, mais on apprend les outils pour la faire, c'est-à-dire la paléographie et des choses comme ça.
Et vous êtes inspectrice générale du patrimoine, voilà. Et vous avez fait un livre extraordinaire qui vous a valu plusieurs prix, l'Académie française, je crois, et puis l'Académie des Beaux-Arts, Viollet-le-Duc, Françoise Bercé, édition du patrimoine. C'est un des plus beaux livres que l'on puisse voir, les reproductions sont extraordinaires, les textes évidemment profonds et d'une érudition exceptionnelle. Et vous continuez à travailler, je crois, sur la question Viollet-le-Duc et peut-être Mérimée, cette relation. Alors,
voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis toujours beaucoup intéressée à Mérimée, peut-être parce qu'il était un peu seul dans son siècle, qu'il était ravageur et pas du tout romantique. Et je prépare effectivement l'édition des rapports de Mérimée à la commission, au ministre, à tous les gens qui comptaient, avec toujours cette pointe d'humour qui le caractérise et qui est salvatrice.
Donc vous comprenez, chers auditeurs, que l'idée c'est de faire surgir ces deux personnages et le contexte, parce que nous sommes en train de parler, portés par l'émotion évidemment, de ce qui s'est passé à Notre-Dame, nous sommes en train de parler peut-être aussi de toutes ces restaurations que Stéphane Bern accompagne, que le loto accompagne, que donc la ferveur populaire commence à accompagner, et tout ça, ça a une histoire, ça a un contexte. Alors, on peut le voir d'une façon romanesque. Qu'est-ce que vous avez fait, Olivier Dutailly ? Vous avez publié une aventure monumentale, un roman publié chez Albin Michel, et c'est un roman qui raconte cette relation Victor Hugo, Mérimée et
Viollet-le-Duc, bien sûr. Oui, il n'y avait pas de romance sur la création du service des monuments historiques, et ça m'a paru une aventure extraordinaire, parce que au début c'est vraiment l'histoire de d'une poignée de personnes, presque d'une personne, deux personnes, trois personnes, et face à eux il y a tous les monuments de France qui sont en ruine à la suite de la Révolution, de ce qu'on en a fait quand ils étaient bien nationaux, qui sont à redresser. Et donc ça paraît un combat impossible au départ. Or, comme on le sait, ils ont réussi.
Donc, ils ont réussi, voilà. Parce que c'est extraordinaire. La mise en place d'un système de protection qui était unique en Europe, j'imagine, à ce moment-là. Est-ce que c'est vrai, Françoise ?
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'était unique qu'on le mette sous la direction de l'État. Oui. Parce qu'en Angleterre, si vous voulez, vous avez énormément de sociétés.
Et toutes ces églises dont on voulait faire des granges, on ne pouvait donc plus, ils ont été protégés.
Voilà. C'était des granges, tout était à l'état de ruines. Et donc, voilà, c'est une fresque qui traverse le siècle et qui raconte comment on a réussi à les redresser avec très peu de moyens au départ.
Alors, un troisième invité est avec nous, Adrien Goetz. Bonjour Adrien, comment allez-vous ?
Mais ça va aussi bien qu'on peut aller après une telle catastrophe qui nous a tous
touchés. Bon, Adrien, nos auditeurs vous connaissent bien, vous êtes venu souvent participer à notre aventure, l'art et la matière. Mais cette fois-ci, dans l'élan ou dans l'effondrement, je ne sais pas, du drame, dans l'élan de la résurrection, vous avez écrit en un dimanche un livre qui vient de sortir, qui a un titre magnifique, Notre-Dame de l'Humanité, publié chez Grasset. Un livre qui d'ailleurs, dont les droits sont versés à la Fondation du Patrimoine pour la restauration de Notre-Dame. C'est un petit livre qui a l'air absolument merveilleux. Comme il est sorti aujourd'hui, je ne l'ai pas encore lu, mais vous nous en lirez des passages. Ça s'est passé
Merci.
Dans quelles circonstances, ce livre ?
Comment est-ce que j'ai assisté à l'écroulement de la flèche et j'ai écouté ensuite tout ce qui s'est dit, tout ce qui dans les jours qui ont suivi, et j'ai écrit effectivement, c'était le dimanche de Pâques, donc c'était peut-être l'espérance d'une forme de résurrection du monument. J'ai pensé qu'on prenait conscience d'une chose, c'est de la dimension véritablement universelle de Notre-Dame de Paris, et je crois que cette dimension universelle, on la doit, comme vous venez de le dire, à Victor Hugo, qui a rendu impérissable, Quasimodo, Esmeralda, tout le monde. Le monde entier voit Notre-Dame comme une création de Victor Hugo.
C'est vous qui avez édité le Victor Hugo que l'on peut lire chez Flammarion. Donc
non, c'est en folio classique. J'ai préfacé cette édition avec Bénédicte Anderson qui a fait les notes et le dossier critique. Et là aussi, elle a été réimprimée au bénéfice des associations qui se dédient au chantier qui s'ouvre. Donc, en réalité, je pense que Notre-Dame est un chef-d'œuvre du 19e siècle. Qu'il y a eu Victor Hugo, qu'il y a eu Viollet-le-Duc, et que c'est évidemment quelque chose de très important.
Alors, Françoise Bercier qui opine.
Oui.
Mais en fait, il va se passer quelque chose, parce qu'on va pas parler que de Notre-Dame, on va élargir, mais néanmoins, le fait, Adrien, que vous considériez Notre-Dame comme un chef-d'œuvre du 19e siècle est à la fois la question et le problème. C'est-à-dire
oui,
que
je
c'est.
Je ne vais pas nier la dimension médiévale de la cathédrale, évidemment. On a perdu dans cet incendie la magnifique charpente qui était du Moyen-Âge et qui était inestimable. Mais cette image universelle, on la doit vraiment à la silhouette que Viollet-le-Duc a donnée de manière géniale au monument, cette flèche et ces deux piliers qui sont les deux tours et le doigt tendu vers le ciel. Ça, c'est admirable. Ça parle dans toutes les langues du monde. Et c'est ça qui a fait que l'image a circulé aussi vite sur toute la planète. C'est le génie de Viollet-le-Duc et c'est le talent de Victor Hugo.
Le doigt tendu vers le ciel, il l'a fait. Les deux tours étaient là quand même, hein.
Oui, mais il a fallu qu'il les enrichisse, qu'il les repense.
Une flèche, c'est un élan. Oui. Et puis alors avec ses apôtres qui s'échelonnent comme sur l'échelle de Jacob, c'est absolument fabuleux comme idée.
Qui sont disposés en étoile.
Les sculptures des rois de Juda sur la façade, qui sont des chefs-d'œuvre de Geoffroy de Chaume. Oui. Et c'est le plus grand musée de sculpture du 19e siècle à ciel ouvert, la façade de Notre-Dame de Paris. Ça, on l'oublie trop.
D'ailleurs, c'est amusant avec ces sculptures, c'est que il y a les 12 sculptures des apôtres qui regardent toute Paris, sauf une qui est tournée vers la flèche, qui est celle de Saint Thomas, qui a le visage de Viollet-le-Duc, comme c'est un peu la tradition au Moyen-Âge de donner le visage de l'architecte à une des sculptures. Or, heureusement, d'une certaine façon, la sculpture a été démontée quelques jours avant, donc il n'a pas vu sa flèche s'effondrer.
Sinon, oui, parce qu'il était là pour regarder son œuvre.
Il avait le visage tourné vers la flèche et il a été démonté in extremis pour ne pas assister à cette catastrophe.
Olivier Dutailly, donc c'est un moment très passionnant, mais donc c'est un moment qui nous permet de parler de cette question. Au fond, Viollet-le-Duc, Victor Hugo, évidemment Prosper, l'invention d'une sensibilité nouvelle et aussi d'une idéologie qui va naître. Comment est-ce qu'on restaure une œuvre d'art? Et là, tout va être les débats vont commencer, les désamours et les amours et les soutiens. Mais peut-être voyons déjà la situation, dans quelle situation est-on? Et pour cela, écoutons Victor Hugo, comment il décrit la situation des monuments à cette période.
À l'heure où nous écrivons, il n'est pas un point en France où il ne se passe quelque chose d'analogue. C'est plus ou c'est moins, c'est peu ou c'est beaucoup, c'est petit ou c'est grand, mais c'est toujours et partout du vandalisme. La liste des démolitions est inépuisable. Elle a été commencée par nous et par d'autres écrivains qui ont plus d'importance que nous. Il serait facile de la grossir. Il serait impossible de la clore. On vient de voir une prouesse de conseil municipal de Laon. Ailleurs, c'est un maire qui déplace un pelevin pour marquer la limite du champ communal. C'est un évêque qui ratisse et badigeonne sa cathédrale. C'est un préfet qui jette bas une abbaye du XIVe siècle pour démasquer les fenêtres de son salon. C'est un artilleur qui rase un cloître de 1460 pour rallonger un polygone. C'est un adjoint qui fait du sarcophage de Théodeberte une auge au pourceau. Nous pourrions citer les noms. Nous en avons pitié. Nous les taisons. Vous tenez les communes en tutelle. Défendez-leur de démolir. Quant aux particuliers, quant aux propriétaires qui voudraient s'entêter à démolir, que la loi le leur défende, que leur propriété soit estimée, payée et adjugée à l'État. Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffirait. Qu'on la fasse. Quels que soient les droits de la propriété, la destruction d'un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur. Misérables hommes et si imbéciles qu'ils ne comprennent même pas qu'ils sont des barbares. Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. Donc, le détruire, c'est dépasser son droit. Faites réparer ces beaux et graves édifices. Faites-les réparer avec soin, avec intelligence, avec sobriété. Vous avez autour de vous des hommes de science et de goût qui vous éclaireront dans ce travail. Surtout que l'architecte restaurateur soit frugal de ses propres imaginations, qu'il étudie curieusement le caractère de chaque édifice, selon chaque siècle et chaque climat, qu'il se pénètre de la ligne générale et de la ligne particulière du monument qu'on lui met entre les mains, et qu'il sache habilement souder son génie au génie de l'architecte ancien.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous assistons à la naissance des monuments historiques et à ce moment où Victor Hugo devient inspecteur, il devient membre de la Commission supérieure des monuments historiques.
Il devient inspecteur général en 1834.
Non, 1834. Hugo, non.
Ah non, inspecteur, pardon, bon, je pensais Méry, mais bien sûr.
Non, Hugo.
Oui, il ne vient pas tout de suite, Hugo. Il vient surtout, il est membre du comité des travaux historiques et scientifiques qui dépendait de l'instruction civique.
Alors, il se passionne, il décrit justement. Il invente une théorie de la restauration et avec beaucoup de finesse. Quel est le paysage? Parce qu'en fait, il réclame une loi, mais la loi, c'est François Guizot qui va la faire en 1830.
Oui, et même, il ne la fait pas vraiment. Au départ, il y a une réglementation, mais la loi, la première loi, elle est 1887. Parce qu'en réalité, on ne voulait pas s'opposer vraiment aux communes. C'était la propriété, si vous voulez, des églises paroissiales, c'était les communes. Donc, en fait, la loi, on n'avait pas de loi. On avait des prescriptions, on avait une manière de faire savoir. Et on s'est servi beaucoup des préfets sous la monarchie de Juillet. Et c'est un fait que tout était à faire et à organiser. Et en fait, il y a quelqu'un qui a joué un rôle très important, c'est Ludovic Vité. Il est complètement oublié, mais Vité était quelqu'un d'extrêmement sensible, intelligent, et qui a compris qu'il fallait donner beaucoup d'argent pour un certain nombre de grands chantiers. Voilà, c'est un petit peu les lois de programme. Si
alors, Vité, c'est le premier inspecteur des monuments historiques de l'histoire, donc pendant 4 ans, juste avant Prosper Mérimée, dont nous allons parler. Et auparavant, dans la grande destruction, dans le grand vandalisme dont parle Victor Hugo, il y a eu les problèmes de la Révolution. On a essayé de vandaliser les tombeaux des rois de France et on a essayé de les conserver. Non, il y a eu des efforts de conservation,
oui, Adrien Gaudin. Bien sûr, Alexandre Lenoir a créé le musée des monuments français, le dépôt des Augustins, ça a été le début d'une histoire enluminée, d'une histoire qu'il a scénarisée, dont il a créé de grands décors qui ont séduit les imaginations, puisque Victor Hugo, Michelet, enfant, ont vu son musée et en ont été durablement marqués. Voilà. Mais avec Hugo et avec Mérimée, c'est maintenant une histoire plus scientifique qui se met en place. Hugo lutte contre une sorte de néo-gothique troubadour qui a produit des pendules et des tableautins de l'école lyonnaise, et il veut qu'on regarde vraiment les monuments. Et Viollet-le-Duc travaille, lui, en scientifique. Quand on regarde son prodigieux dictionnaire, on voit qu'il a vraiment travaillé comme un savant.
C'est l'équivalent du Larousse. Enfin, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que lui, il a voulu, étant mis au pied du mur, Quand vous devez relever un monument qui est par terre, vous devez vous interroger. Vous ne pouvez pas uniquement, effectivement, rêver. Il faut savoir comment ça a été fait, ce qu'on va pouvoir faire. Et donc, tout pour lui passe par la raison, parce qu'il ne suppose pas que les maîtres anciens faisaient ça par hasard. Donc, son travail, c'est de...
Là, vous parlez de Viollet-le-Duc.
Oui, de Viollet-le-Duc, de rationaliser. Alors,
avant Viollet-le-Duc, il y a Prosper Mérimée qui prend la place de Vitet et qui va faire une exploration.
Oui, mais il cherche les architectes, Prosper Mérimée.
Et il va chercher
les architectes. Il cherche quelqu'un.
Mais alors, justement, Olivier Dutailly, dites-nous, il cherche, vous, dans votre roman, vous faites apparaître leur rencontre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a entre eux?
Oui, c'est un roman, mais c'est très documenté. C'est vrai que avant même que Mérimée entre en scène, Victor Hugo a été un formidable lanceur d'alerte, oui, avec des textes dès 1825, avec Guerre aux démolisseurs, avec La Bande Noire. Et puis après, toujours avant que Mérimée entre dans le jeu, puisqu'on est en 1831, il écrit Notre-Dame de Paris, et là, il invente le storytelling des monuments, et avec Esmeralda, avec Quasimodo, il humanise la cathédrale, et ce qui fait que on est tous concernés par cette histoire. Ça commence à devenir une histoire nationale. Ça, c'est vraiment en phase totale avec la révolution romantique. Et là-dessus, Prosper Mérimée va être nommé inspecteur général des monuments historiques en 1834. Et il est candidat au poste, mais vraiment par défaut, parce que il était obligé de gagner sa vie. Contrairement à Victor Hugo, qui lui, très tôt, avec ses droits à théâtre, avec le succès de Notre-Dame de Paris, notamment, a été autonome financièrement. Mérimée, lui, il est obligé de travailler dans un ministère. Et quand le poste d'inspecteur général des monuments historiques a été à pourvoir, il s'est dit que c'était un petit peu le rêve, qu'il allait être rémunéré pour voyager, qu'il n'aurait pas un supérieur hiérarchique au-dessus de lui à longueur de journée, et qu'il allait glaner plein d'histoires qui lui permettraient d'alimenter ses nouvelles, ses romans, etc. Ensuite, ça ne va pas du tout se passer comme ça, parce que la charge va être dévorante, et qu'il va se prendre au jeu, et que ça va devenir un inspecteur général des monuments historiques exemplaire.
Parce que ce qu'on lui demande à ce moment-là, ce qu'on demande à Mérimée, son rôle, c'est d'aller dans toute la France et inventorier ce qui est fragile et ce qui est précieux.
Voilà.
Et justement, Adrien Goetz, il se trompe sur la liste ou pas?
Il est génial, il est le premier à arriver à Vézelay, à faire une description de Vézelay comme une sorte de colline inspirée, c'est une page magnifique. Il découvre les tapisseries de la tapisserie de Bayeux, il l'a fait classer comme un monument historique, elle est inscrite sur sa première liste. Donc il va à Carnac, quand on regarde ses rapports, il est vraiment celui qui est le premier à avoir vu l'intérêt de tout cela. Et il invente le patrimoine national.
À ce moment-là, je vous parlais de Saint-Savin, on badigeonne Saint-Savin, on fait pas
attention. Le badigeon, Flaubert dit dans le dictionnaire des idées reçues qu'il faut lutter contre le badigeon, parce que dans toutes les églises, on veut badigeonner.
Comment ça se fait?
Que ce soit propre.
Pour que ça soit propre, c'est le badigeon de propreté.
Comment ça se fait? Oui, éclair. Comment ça se fait, Françoise? Il n'a pas une vraie formation d'archéologue et d'historien. Comment est-ce qu'il voit? Comment est-ce qu'il sépare le bon grain de l'ivraie, le sublime de l'ordinaire?
Enfin, il était quand même, son père avait été un secrétaire général de l'école des Beaux-Arts pendant des années. Il pensait faire une carrière de dessinateur et de peintre. Sa mère peignait, par exemple. Et donc, si, il savait voir, il était allé en Espagne, il avait été voir les musées de Madrid.
Est-ce que je comprends qu'il va se passionner pour le gothique et le roman? Parce que c'est la seule chose qui est protégée, ou est-ce qu'on protège aussi le carolingien, l'antique, le néoclassique?
C'est lui qui décide, en fait.
Mais qu'est-ce qu'on décide? J'ai eu l'impression qu'on allait décider que vers 1913, de protéger au-delà du Moyen-Âge.
Alors, ça c'est en partie vrai. C'est-à-dire que, si vous voulez, il faut comprendre qu'après la Révolution, c'était même les monuments du Moyen-Âge qui avaient été anéantis, en particulier tous les biens des moines monastiques. Et donc, c'était quand même ce qui était le plus urgent de protéger.
Il va s'occuper d'Orange quand même aussi. C'est vrai que l'Antique, il va s'en occuper.
Mais l'Antiquité, bien sûr, parce qu'il est absolument nourri de l'Antique. l'Antiquité, comme tous ces hommes de cette génération, pour le latin, il sait parler le latin et le grec et les inscriptions, etc. Mais sinon, ce qui est médiéval l'intéresse beaucoup, il considère que c'est absolument fondamental. Et en fait, ça s'arrête effectivement, vous avez raison, au 16e et au 16e siècle pratiquement. C'est-à-dire que les maisons du 16e siècle, qu'il croit quelquefois d'ailleurs être du 16e siècle, qui sont plus tardives, sont de belles maisons et on envisage de les sauver, mais pas de les protéger au titre de monument historique, parce qu'on n'a pas les moyens. Parce qu'il faut comprendre que le budget était très 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 limité. Et que c'était déjà c'était déjà une aventure prodigieuse d'avoir obtenu que l'État se mêle de la protection des monuments.
La question qui se pose, c'est faut-il protéger des monuments qui sont des archétypes, qui sont au centre d'une époque donnée de l'histoire de l'art. Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, dit qu'il faut défendre la cathédrale parce qu'elle est un mélange des styles, de même que lui aime le mélange des genres, le beau, cousu, au lait. Dimension romantique. Ce qui lui plaît, c'est que Notre-Dame n'est pas caractéristique d'une époque ou d'un style, qu'il y a ce mélange et qu'à l'époque où commence son roman, au XVe siècle, elle est devenue déjà incompréhensible, elle est mystérieuse. Les personnages du roman qui sont devant la façade n'arrivent pas à en déchiffrer les symboles, exactement comme les érudits de la génération de 1830. Il faut tout comprendre du Moyen-Âge.
Le livre de Pierre est illisible.
C'est ça, et fascinant du coup. Ouais.
Alors Olivier Dutailly, donc, ils vont se rencontrer, il va avoir besoin, comme le disait Françoise, d'un architecte. Il va chercher un architecte, mais l'architecte qu'il va prendre n'est pas un architecte.
Pour répondre à votre question sur leur rencontre, donc il va cheminer comme ça, il va avoir des petits boulots, à un moment il va travailler pour un bronzier et surtout il va travailler pour le baron Taylor qui éditait une histoire de la France pittoresque, ça consistait en des vues de monuments avec à l'intérieur des scènes de la vie quotidienne. Et ça, je pense que ça a été très important pour Viollet-le-Duc parce que ça l'a aussi aidé à comprendre comment ces monuments étaient habités. Ça lui a donné une intelligence des monuments que d'autres n'avaient pas à son époque. Et il est sans travail, sauf des petits boulots de fortune comme ça, mais enfin, il n'est pas sollicité comme architecte. Et là-dessus arrive le chantier de Vézelay, dont Mérimée a la responsabilité, et il ne trouve aucun architecte. On pense que Vézelay va s'effondrer, donc tous les architectes se défilent, et c'est Mérimée qui, effectivement, choisit de faire confiance à ce jeune autodidacte, puisque à ce moment-là,
c'est un risque énorme, parce que effectivement, on a l'impression, Françoise, que personne n'y croit à la restauration de Vézelay.
Oui, mais justement, il était allé voir l'oncle de Viollet-le-Duc, de Lécluse, qu'il connaissait bien.
Ouais.
Et il lui avait dit.
De Lécluse, qui est un artiste.
Qui est un artiste, un érudit. Et qui a tenu la rubrique des arts dans le journal des débats. Pendant 30 ou 40 ans. Je veux dire, c'est
quelque chose. Quelqu'un qui comptait, oui.
Oui, imaginez que quelqu'un a la rubrique dans le monde des beaux-arts pendant 30 ans. Voilà. Donc, il est allé le voir et il lui a dit, mais est-ce qu'il faut vraiment que je poursuive? Et l'oncle a dit, si Eugène a dit qu'il le ferait, il y arrivera.
Il va au bout.
Il arrivera.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très caractéristique. Ah, c'est l'obstination. Oui. Et aussi quelque chose d'autre. D'ailleurs, Olivier, dans votre livre, vous insister là-dessus, mais quand on lit le vôtre, Françoise, c'est très net, c'est la façon dont il rend les concours très vite. Il est prêt avant les autres, c'est impeccable.
Ah oui,
il y a une précision, une organisation, une qualité.
Il y a une volonté, il s'accroche.
Et puis
il passe des heures. Quand il va à la cathédrale de Chartres, par exemple, et il passe 18 heures dans la cathédrale, et épuisé et heureux.
Pour remporter le chantier de Notre-Dame avec la SU, il rend un dossier étayé, avec des documents,
il y a 30
relevés,
pages de justification. Il a vu tous les... D'ailleurs, dans sa bibliothèque, il y avait tout. Il y a Dubreuil, il y a Corozet, il y a tout le monde.
Alors, Vézelay, quand même, il faut qu'on s'arrête une seconde sur Vézelay. Peut-être on écoute un extrait. Alors, peut-être on va écouter un extrait de votre livre, Olivier. Donc, et puis, on en reparle ensuite parce que l'enjeu est énorme et la nouveauté de la technique qu'il propose est une stupéfaction. Vous nous expliquerez ça parce que je n'ai pas tout compris.
On est en 1840. Eugène arrive à Vézelay en plein hiver. Des arbres ont poussé à l'intérieur de la basilique. Leurs racines ont fait éclater les dalles. Les murs sont déjetés, fendus, pourris par l'humidité. Le mal s'accroît tous les jours, notait déjà Prosper, 5 ans plus tôt, en découvrant la Madeleine. Ça ne s'est pas arrangé depuis. Ce n'est pas un hasard si les confrères expérimentés se sont défilés. On se demande comment cela tient encore. Il y a de quoi être écrasé par l'ampleur colossale de la tâche. Eugène ne l'est pas. Je l'imagine dormant à l'intérieur de la basilique les premières nuits, malgré la neige et le vent, et malgré les recommandations de Prosper, tâcher de ne pas attraper une fluxion de poitrine. Eugène est déjà venu sur place, bien sûr, pour établir son dossier de candidature, croquis et devis, qu'il a rendu le premier, comme il fera toujours. Sa virtuosité de dessinateur a contribué à convaincre le jury. Mais à présent, il a besoin de s'approprier l'espace, d'affiner sa stratégie pour diriger les travaux. Et surtout, de dominer son émotion. Car il est confondu par la beauté de l'endroit. Eugène est autodidacte par choix et même par entêtement. Il est né dans une famille d'architectes, mais il a refusé de faire les beaux-arts comme son père et son oncle. Il a compris très tôt que c'était un moule à architectes d'où sortent des jeunes gens au profil uniforme, et il ne veut pas leur ressembler. Le sauvetage de Vézelay sera unanimement reconnu comme une grande réussite. On louera la réfection spectaculaire de ce chef-d'œuvre grâce à l'intelligence de ce tout jeune architecte. Ça y est, la carrière d'Eugène est lancée.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière et nous racontons l'aventure de la naissance des monuments historiques autour de Prosper Mérimée et du grand Viollet-le-Duc. Nous venons d'écouter un extrait du livre, du roman Une aventure monumentale, roman historique et documenté d'Olivier Dutailly. Et donc qu'est-ce qui s'est passé à Vézelay? Parce que ce qui est vrai, François, c'est que Vézelay a été vraiment le lancement et la preuve qu'on avait affaire à un grand architecte à ce moment. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire qu'on n'aurait pas...
Vézelay était très célèbre, parce que c'était là qu'était parti le pèlerinage en Terre Sainte, donc tout le monde avait cela en tête, et puis c'était une église qui était venue à la charge d'une petite ville. C'était l'exemple même, si vous voulez, de ce que la Révolution avait fait. Parce qu'on avait confisqué les biens du clergé régulier, et donc une aussi grande abbatiale tombait à la charge d'une toute petite commune. Et ce qu'il y avait, ce qu'a pensé Viollet-le-Duc, qui est un chef-d'œuvre de sa restauration, c'est de faire l'unité de la nef. C'est-à-dire qu'il y avait 3 travées qui étaient gothiques, et les autres étaient romanes. Et donc, il a eu l'audace, mais il a obtenu l'accord de la Commission des monuments historiques. Et des gens qui n'étaient pas forcément très faciles.
Oui, mais Françoise, je ne sais pas ce que vous en pensez, Adrien, on ne ferait plus comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que se dire qu'on choisit le roman contre le gothique, c'est plus du tout comme ça qu'on pense.
C'était pour
3
travées. Et pourtant, Éléonormand, qui n'était pas du moins quelqu'un de facile, a dit oui, mais ça sera mieux comme ça. Et après tout, il y avait encore la place des chapiteaux qui montrait l'ancienne hauteur des voûtes. Donc ça, c'était une audace, et il a fallu qu'il les fasse, il les laisse pendant tout un hiver. Quand on a enlevé les échafaudages, il y avait quand même un petit moment d'inquiétude. Et ça s'est très bien passé.
Moi je dirais, c'est pas mot à Cesare Brandi, le théoricien italien de la restauration, qui s'attache toujours à l'aura des édifices. C'est-à-dire qu'il restaure bien sûr les pierres, mais il pense tout de suite à la fonction et à cette dimension qui va au-delà des pierres et qui est l'aura de l'édifice. Ça, c'est très important. Et à Vézelay, c'est exactement ça. Il en fait un mythe, comme de Notre-Dame.
Oui, il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'il recherche un état idéal de l'édifice tel qu'il a été imaginé par son concepteur à l'origine, et en éliminant les accidents de l'histoire, en quelque sorte. Vous ne le diriez pas comme ça,
si,
Françoise?
Si, c'est ce qu'on a beaucoup dit, justement. Mais c'est vrai. Mais il était normal que la personne qui restaure ne rétablisse pas dans un esprit ou dans un moment de ruine ou de rupture. Il était obligé. Alors, c'est ça qui est d'ailleurs très difficile et que découvrent les jeunes architectes de ce moment-là. C'est comment restaurer réformer, si vous voulez, les accidents. Et ça n'est pas possible, il faut choisir. Et ça, c'est ce que Viollet-le-Duc a su faire.
Mais aujourd'hui, je pense qu'on garderait tout.
Quelquefois, on garde tout, mais pas toujours.
Ce qui est très particulier, c'est la façon dont il a solidifié les colonnes de Vézelay.
Ah oui, non, mais ça, ça ne posait pas un problème particulier, je pense
non.
pas. Ah non, c'était le problème de la voûte. Et puis, il y a eu une mauvaise surprise, c'est pour le vestibule, parce qu'il pensait que ça allait tenir, et ça avait lâché entre-temps. Et il s'en est beaucoup excusé, mais les autres architectes ont
très bien compris
oui,
ce qui se passait.
Bien convenu que c'est
faut aller
c'est...
sur place, il y a un petit musée qui n'est pas toujours ouvert, mais oui. qui est très bien fait. Et puis il y a l'estaminet où il allait jouer au billard, il y a une petite plaque qui dit ici, le soir, Viollet-le-Duc venait.
J'aimerais bien vous entendre, Adrien, sur un texte que je vais vous faire écouter tout de suite, qui est un texte de 1849, de quelqu'un qui ne pense pas exactement comme nous, et qui est John Ruskin.
Ah oui.
Oh bah oui.
Oui.
La restauration signifie la destruction la plus complète que puisse souffrir un édifice. Prenez soin de vos monuments. Vous n'aurez alors nul besoin de les restaurer. Veillez avec vigilance sur un vieil édifice. Comptez-en les pierres. Mettez-y des gardes. Liez-le par le fer quand il se désagrège. Soutenez-le à l'aide de poutres quand il s'affaisse. Ne vous préoccupez pas de la laideur du secours que vous lui apportez. Mieux vaut une béquille que la perte d'un membre. La conservation des monuments du passé n'est pas une simple question de convenance ou de sentiment. Nous n'avons pas le droit d'y toucher. Ils ne nous appartiennent pas.
Adrien Goetz, on venait de parler de la restauration, des idées de la restauration de Viollet-le-Duc. Et là, on a Ruskin, qui est le grand esthète anglais, qui a écrit la Bible d'Amiens.
Vous l'avez dit, c'est une vision totalement esthétique et séduisante, qui est celle d'un Gabriele D'Annunzio qui arrive devant la cathédrale de Reims en 1915, qui a flambé parce que les Allemands l'ont bombardé, et qui écrit devant Reims, qui n'a plus de charpente, la cathédrale n'a jamais été aussi belle, la cathédrale s'achève dans les flammes, on a envie de tomber à genoux devant ce miracle, qu'on ne touche pas aux statues, qu'on ne fasse aucune réparation. Voilà, donc ça c'est le lyrisme de D'Annunzio.
Qui est cité qui fait, dans votre livre d'ailleurs, écho, hein, dans Notre-Dame de l'Humanité.
Oui, je ne connais pas par cœur, qui fait écho à ce que Ruskin prétend.
Rodin disait ça aussi.
Et Bataille, quand il a vu l'incendie en question, c'est son premier grand texte, hein, c'est aussi sur cette, la beauté effrayante et sacrée de cette dépouille.
Le soir de l'incendie de Notre-Dame, il y avait une forme de fascination.
Oui.
Les gens ont regardé ça, nous avons tous regardé ça avec désespoir, mais aussi comme un spectacle relayé par nos téléphones portables.
Presque une relique.
Une sorte d'image.
Mais il y a des Olivier Dutailly, des conceptions différentes de la restauration qui s'affrontent. Et voilà, et je pense qu'ils vont être ravivés d'ailleurs avec le débat autour de la flèche. Mais donc Ruskin est radical dans ce sens-là.
Poétique de la ruine, en fait.
Voilà, exactement. Victor Hugo, lui, pense un petit peu comme vous l'évoquiez tout à l'heure qu'il faut laisser les différents états d'un monument. C'est comme un visage qui vieillit, il y a les traces de la vie, il faut qu'il le conserve. Et Viollet-le-Duc, je pense que sa particularité, c'est qu'il était tellement imprégné de l'esprit des architectes du 12e, du 13e siècle, qui se mettait un peu en position, pas de rival, il était un confrère avec eux. Et donc, s'il avait des meilleures solutions architecturales qu'eux, il n'était pas intimidé par ça, et il avait une liberté de mouvement que les autres comprenaient mal. Et il y a une illustration à propos de Vézelay qui est très jolie, c'est les chapiteaux. Il y a 150 sculptures sur les chapiteaux de Vézelay. Celles qui pouvaient être restaurées, dont on avait assez de traces, ont été refaites telles qu'elles étaient. Et les autres, il les a inventées. Il a inventé des chimères avec tout ce bestiaire du Moyen-Âge. Et ce qui l'amusait beaucoup ensuite, c'était de demander aux visiteurs de distinguer lesquelles étaient d'origine et lesquelles étaient de lui. Les gens n'y arrivaient pas parce qu'il était à ce point en phase avec l'époque.
Alors, Françoise, qui réalisait... quand il était... Parlons du chantier de Notre-Dame. Notre-Dame, à ce moment-là, du chantier de l'époque, hein, puisqu'on va le prendre comme exemple. Et Notre-Dame, ça correspond à ce que vient de dire Olivier, est entourée, enserrée, j'imagine, de maisons, les prises dans...
C'est vrai. Hein,
et donc, on nettoie tout cela, et puis il faut...
Il faut nettoyer, et surtout, il faut se porter tout de suite aux endroits qui sont... qui menace.
La galerie des rois risque de s'effondrer, des têtes sont déjà parties.
Oui, absolument. Et alors, il restitue, il travaille avec Geoffroy de Chaume. Et il y a tout ce grand, cette dimension du chantier.
Qui est Geoffroy de Chaume?
Alors, Geoffroy de Chaume est un sculpteur, qui a travaillé déjà avec Lassus à Sainte-Chapelle.
Oui.
Oui, avec Lassus, qui est d'ailleurs associé avec Viollet-le-Duc pour Notre-Dame de Paris. Et Geoffroy de Chaume, mais lui aussi, c'est un homme de terrain qui est entouré de maîtres maçons, de maîtres sculpteurs, et donc il constitue une espèce de grand atelier au pied de Notre-Dame, si vous voulez. C'est pendant des années, il y aura eu un atelier sur place. Et alors, les premiers efforts, c'est surtout sur les couvertures des bas-côtés et du transept, pour lesquels il y a des problèmes de voûte qu'il faut renforcer.
Ça, je comprends. Mais ma question, au fond, c'est quand il y a une création, sous prétexte que Viollet-le-Duc est dans la sensibilité, et comme le disait Adrien, avec ses compagnons du Moyen-Âge, comme s'il était avec eux, il arrive à interpréter, refaire des gargouilles, rajouter des animaux qui n'étaient pas là, rajouter des chats, par exemple, en hommage au chat de Prosper Mérimée, peut-être. Et qui fait ça? Qui réalise ça si bien? Est-ce qu'il va prendre un modèle dans une autre cathédrale pour le ramener ici?
Il a d'abord dessiné dans les parties hautes de Notre-Dame. Il a hanté littéralement les parties hautes de Notre-Dame, où il a trouvé énormément d'animaux, justement.
Oui, il les dessine. On les voit dans votre livre,
pages,
Françoise. Vous avez une double page magnifique dans votre livre. Les gargouilles, il n'y en a plus du tout. Le cardinal de Noailles, il les avait toutes remplacées par des tuyaux qui étaient beaucoup plus efficaces pour l'eau de pluie. Donc il n'y avait plus de gargouilles. Donc ça,
mais il y en avait
ailleurs,
effectivement.
Et puis les chimères, c'est tellement génial. C'est l'invention du strige qu'on finit par croire d'origine.
C'est le personnage le plus célèbre, peut-être, de toute la sculpture parisienne.
Qui inspire Mérion pour ses gravures, qui inspire les premiers photographes. Charles Nègre photographie le strige. Et tout le monde croit que c'est finalement la sculpture qui a inspiré Victor Hugo, alors que c'est exactement le contraire. C'est le roman de Victor Hugo qui inspire au sculpteur qui travaille avec Viollet-le-Duc cette figure accoudé à la rambarde et qui regarde
féroce.
Paris à vol d'oiseau, féroce et inquiétant.
Donc, ce que vous nous dites, c'est que non seulement une grande partie de ce qui est là a été réinventé pour créer une unité, le portail central
avait été éventré par Soufflot pour que les processions puissent passer plus
convenablement. Il a remis le trumeau.
Voilà, avec la sculpture.
Il a remis le trumeau avec une très belle sculpture. Et puis la partie, il a rétabli un petit peu dans le trumeau, c'était le jugement dernier.
Oui. Donc tout ça est 19e. Hein. Il faut quand même bien voir ça.
Or, la plupart des gens qui passent là ne s'en doute pas.
C'est ça. Alors quand on dit que la flèche est une adjonction du 19e, non.
Non.
La cathédrale tout entière a été repensée.
Et puis il y avait une flèche jusqu'en 1798.
Évidemment.
De 1258.
Attendez, il y avait néanmoins, je me souviens d'un texte de Victor Hugo dans lequel Victor Hugo dit: on a restauré la flèche de la Sainte-Chapelle, pourquoi ne restaure-t-on pas la flèche de Notre-Dame? Il y avait une flèche.
Bien sûr.
Qu'a-t-on fait de cette petite flèche qui était à la
voilà, c'est ça, c'est le
texte. L'écrit.
Et alors, peut-être qu'on peut faire une petite incise. Que va-t-on faire de cette flèche? J'ai l'impression, Adrien, que vous avez une idée. J'ai lu une page que j'ai trouvée très belle dans votre livre. C'est la seule sur laquelle je suis tombé, parce que je l'ai reçue aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de nous la lire?
Si vous voulez,
page.
Sur la flèche.
Vous avez le courage de faire un peu de lecture?
Oui, avec joie. Si la flèche du Mont-Saint-Michel tombait, hésiterait-on à la reconstruire sous prétexte qu'elle ne date pas du Moyen-Âge, mais de 1897? Imaginerait-on aujourd'hui le Mont sans son archange doré? La flèche du Mont est un immense cadran solaire qui projette son ombre sur la baie, qui rythme les marées, résiste aux tempêtes et éclate sous le soleil. Ce symbole magnifique, on le doit au XIXe siècle, à l'élan des architectes restaurateurs. Ils ont été l'armée qui a permis la renaissance de ce patrimoine. Cette image d'un 19e siècle salvateur, cette flèche, symbole de Notre-Dame, image d'une prière ardente tendue vers le doigt de Dieu qui parle à tous dans une langue universelle, on voudrait aujourd'hui la détruire. Ajouter au ravage de l'incendie des conséquences plus désastreuses encore. Le monde entier a instinctivement vu circuler l'image de cette flèche martyrisée et rougeoyante parce qu'elle parle haut et clair dans toutes les langues de l'humanité. Viollet-le-Duc est l'auteur ou l'inspirateur des lutrins, des candélabres, des reliures, des livres saints. Il a dessiné les grilles du cœur, le grand candélabre du cierge pascal. Il a supervisé ou dessiné lui-même les gargouilles et les chimères. Notre-Dame, que cela plaise ou non, porte sa griffe. Il en a fait son œuvre, cohérente et harmonieuse, où règne une unité esthétique, du pavement au coq de la flèche. Son génie est d'avoir repensé la cathédrale comme un monde en soi, parfaitement cohérent, de s'être mentalement comporté comme un maître médiéval et d'avoir conçu un tout dont il faut, après lui, respecter chaque partie. Structuré comme un langage, le gothique de Viollet-le-Duc, à Notre-Dame, raconte l'inconscient de la France. Lui enlever sa flèche, c'est l'amputer. Rendre le discours tenu par l'édifice incompréhensible, touché à la clé de la poésie nationale.
Bravo, on est. Hein, non, c'est un très beau texte. Donc là, votre parti pris est net. On ne défigure pas une œuvre qui est déjà complète.
Et puis surtout, on ne va pas écouter ce que Viollet-le-Duc nous explique de la restauration. Parce qu'il faut bien distinguer, je crois, le Viollet-le-Duc théoricien du Viollet-le-Duc créateur. Il explique qu'un édifice qu'on restaure peut n'avoir jamais existé à aucun moment. Bon, c'est la phrase très célèbre qui est toujours retenue contre lui. Mais tout ça aboutit à une œuvre d'art qui a été ensuite classée, protégée par les services des monuments historiques au XXe siècle et que nous avons le devoir de conserver.
C'est un maillot de la chaîne de nos...
Oui, mais alors dans le roman d'Olivier Lutéy,
tout le monde n'est pas de cet avis.
Très souvent, on voit comment Viollet-le-Duc, en même temps, est très discret sur ses intentions créatrices. Il met en évidence des sources, n'est-ce pas, Olivier ?
Oui, il sait très bien qu'il faut commencer par rassurer les commanditaires et l'État, en l'occurrence, pour avant d'attaquer le chantier. Après ça, une fois qu'il est sur le chantier, il peut faire des aménagements avec un petit peu plus de liberté. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que ce qui est particulier dans le cas de Viollet-le-Duc, c'est que il était extrêmement imprégné de l'histoire de la cathédrale, donc il l'a recréé à sa manière, mais il l'a recréé en annexant le 19e siècle, en annexant la légende qu'avait inventé Hugo et qui est devenue réalité. C'est Michelet qui disait que depuis Hugo, Notre-Dame était une cathédrale de poésie. Et l'historien reconnaissait que on était un peu dépossédé par l'impact qu'avait eu le roman de Hugo. Donc on peut se demander aussi si cette fameuse flèche, on ne pourrait pas aujourd'hui la réimaginer en prenant compte de toute cette histoire, mais aussi du monde actuel. C'est-à-dire que notre regard sur Notre-Dame n'est pas le même que ce qu'il était 10 ans après la publication de Notre-Dame de Paris.
Alors, je ne voudrais pas qu'on rentre sur le débat sur la flèche, parce que c'est interminable, mais vous l'avez lancé. Néanmoins, il y a quelque chose d'autre dans votre propos qui m'a intéressé et qui n'est pas ce débat-là. C'est au fond, ce que vous dites, c'est qu'Adrien Goetz a totalement tort.
Je m'engage.
Tu sais pas sur quoi. Notre-Dame de Paris n'est pas une œuvre de Viollet-le-Duc, c'est une œuvre de Victor Hugo.
Mais probablement, bien sûr.
Si
l'émotion était universelle, c'est aussi parce que...
Il se trouve que c'est lui l'architecte.
Voilà.
Oui, mais on sent bien que c'est l'imaginaire de Victor Hugo qui bourdonne dans l'esprit...
Oui, mais les flèches, c'est vraiment l'imaginaire de Victor Hugo et des autres. Parce qu'on a refait la flèche de la Sainte-Chapelle, on a refait la flèche à Amiens, on a fait la flèche à Notre-Dame-en-Vaux, etc. C'est vraiment le 19e siècle qui a réinventé la ville médiévale hérissée de flèches, alors que la ville classique, c'est les coupoles. Donc là, vraiment, je trouve que on couperait complètement. Pourquoi le XXe siècle n'a pas réinventé les cathédrales ? Pas du tout. Alors donc, on ne va pas aller mettre je ne sais quoi à la place d'une flèche qui, au contraire, elle entre totalement dans un Moyen-Âge repensé.
Alors je voudrais qu'on parle de quelque chose d'autre qui est la question de la couleur, et peut-être qu'on va l'aborder à travers une autre réalisation de Viollet-le-Duc, évidemment, qui est le château de Pierrefonds dans l'Oise, dans les Hauts-de-France, et qui a une histoire très particulière, rachetée pour pas grand-chose par Napoléon, et par Napoléon Ier, me semble-t-il.
Oui, peut-être.
Je crois.
C'était dans la liste civile.
Il était annexé au domaine de Compiègne.
Annexé par Corot et par quelques autres. Et puis Napoléon III décide d'en faire une résidence.
Oui. Mais c'était une ruine magnifique. On imaginait Walter Scott, on imaginait les... Enfin, c'était vraiment...
Lui a pensé ça, parce qu'il était en Angleterre, il avait été reçu somptueusement par la reine. Lui, Napoléon III.
Oui.
Et par conséquent, c'est là, il a pensé qu'il fallait qu'il ait une résidence à la, dans, enfin, en province.
Et Eugénie, oui. L'impératrice des Français, l'amie de Prosper Mérimée, oui. dit il n'y en a qu'un, c'est Viollet-le-Duc. N'est-ce pas?
Absolument.
Et alors, il y a quelque chose. C'est alors, vrai. J'ai cinq questions à vous poser là-dessus. Première question, Pierre Fonds, ça sera le triomphe de la couleur. Pourquoi n'y a-t-il pas eu à Notre-Dame, par exemple, un travail sur la couleur proposé?
Ah si, il a fait un travail sur la couleur, dans les chapelles rayonnantes en particulier. Seulement, après, on est revenu dans les années 30, et au fond, ces chapelles, elles ont été un peu oubliées, mais on peut les voir, il y en a qui ont été restaurées à Amiens, par exemple. Et là, on retrouve la couleur.
Parce que Viollet-le-Duc dit qu'il avait vu les traces de polychromie, ah, donc oui, il sait comment c'était.
On sait bien que le 19e siècle a réinventé aussi la couleur dans les édifices, et elles sont passées si mal ces chapelles, mais elles sont un petit peu abandonnées. Alors, je ne pense pas que ça soit le premier.
Mais vous qui êtes une femme sérieuse, si je puis me permettre, Françoise, vous ne trouvez pas qu'à Pierre Fonds, il a oublié la réalité du monument, il a imaginé une œuvre d'art totale?
Oui, oui, il a imaginé, mais il a quand même respecté ce qui restait, c'est-à-dire l'enceinte, les niches, s'il existait les statues, des fameux preux, là, de Arthur, etc.
Les preux, il a même pris le visage de l'impératrice Eugénie.
Ah oui, mais
Eugénie.
Ça, c'est à l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'est ce qui a été restauré par les monuments historiques, d'ailleurs, c'est l'enceinte, les niches, et ça, il les a respectées. Et je trouve que, par exemple, la chapelle est merveilleuse.
La chapelle. Mais reconnaissez, vous qui êtes. Oui. Qui est une inspectrice, qui est une, je sais pas ce que c'est, ce titre magnifique que vous avez, mais vous n'accepteriez jamais aujourd'hui de travailler avec un Viollet-le-Duc du 21e siècle.
Oh, mais je pense que à Pierre Fonds, il a inventé, mais il a inventé parce qu'il ne restait plus les choses. Et il a inventé une résidence impériale. Donc,
il y a des artistes d'aujourd'hui qui sont capables de comprendre ça. Regardez le travail de Jean-Michel Autoniel à la cathédrale d'Angoulême, qui avait été restauré
magnifique.
Par Paul Abadie.
Le trésor.
Paul Abadie, dans l'imaginaire, alors, c'est encore pire, entre guillemets, que Viollet-le-Duc. C'est l'architecte qui devient celui du Sacré-Cœur de Montmartre. Et donc là, il y a un artiste contemporain qui a inventé trois salles du trésor, magnifiques, totalement d'aujourd'hui, totalement. Et dans un esprit qui est en harmonie avec ce que Paul Abadie avait fait de l'édifice médiéval au 19e siècle.
Et c'est le chef-d'œuvre d'Autoniel,
mais moi je crois.
C'était un des
vous pensez
plus belles,
ça aussi, voilà.
Plus belles œuvres
voilà.
qu'il ait jamais faites. Ouais.
Donc
oui.
c'est bien la preuve que cet imaginaire enluminé de Pierre Fonds et des autres lieux qui ont été sublimés
prolongé,
par les...
Prolongés, vous reprenez,
les
oui,
peuvent
voilà.
parler à des artistes vivants.
Et à Coucy, qu'il aimait beaucoup, il avait pensé
Coucy,
que...
qu'est-ce que c'est, parce que c'est
Coucy,
pas un château.
C'est un château. Oui, c'est un château. C'est un château médiéval qui n'est pas très loin de Pierrefonds et qui a été, alors là, complètement détruit par les Allemands au moment où ils repartaient à la fin de la guerre de 14. Ils l'ont fait exploser, alors que c'est très beau, Pierrefonds. C'est ce qui en reste.
Oui.
Est super.
Olivier Dutailly, vous vouliez dire quelque chose?
Non, je voulais dire qu'il y a quand même un problème à Pierrefonds, c'est que C'est un geste architectural extraordinaire dans le moindre détail, mais en même temps, ça s'est avéré relativement inhabitable. En tout cas, Napoléon III y a passé une nuit ou deux, et ensuite il en a fait un musée des armures. Alors bon, c'était aussi la fin du Second
Empire dure 10 ans de plus.
D'accord.
On aurait tout le mobilier, ça serait
parce
très
que
confortable.
C'était pas fini.
Mais il y avait le chauffage, il y avait un calorifère.
C'est sa collection d'armures qu'il a mise là.
Oui.
Mais c'était pas parce qu'il abandonnait l'idée d'habiter.
Mais par contre, il y a un autre endroit qui a été réhabilité par Viollet-le-Duc, qui est une des rares réhabilitations privées qu'il ait faite. C'est le château de Pupetière, et ça, oui. c'est merveilleux, parce qu'on voit oui. comme il rend ce cadre qui était un peu ingrat à habiter, comme il le rend agréable. D'abord, il a laissé les pierres de taille telles qu'elles étaient, il a complété les manques avec des briques, et ensuite il a élargi les ouvertures, il en a fait un petit peu, il a réaménagé un petit peu dans un esprit de son époque, mais qui rend le monument très 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 humain. On sent qu'il n'est pas tenu par une espèce de dogme comme ça, mais que le caractère des lieux et leur habitabilité est un facteur.
Visiter Roquetaillade, par exemple,
oui,
qui
oui,
est un Viollet-le-Duc et un de ses
oui,
meilleurs élèves,
c'est vrai que c'est,
qui,
oui, voilà.
avec ce petit pont-levis qu'on peut tourner oui. avec une manivelle pour aller les prendre chambres, le thé au jardin, les chambres décorées, c'est les lieux de tournage de Fantomas en Écosse avec Louis de Funès, vous avez vu ça.
Oui,
voilà,
oui,
c'est
oui,
Octaviade.
Oui, oui. Oui, mais à Pierrefonds, il y a une part d'invention tout à fait intéressante. Les grandes salles sont avec le passage latéral.
Non, moi je dois vous arrêter parce que je voudrais vous faire écouter un autre texte et j'ai encore trois questions à vous poser. Et très importantes. Alors, je voudrais vous faire écouter un texte du début de la carrière de Viollet-le-Duc, mais où on sent, comment dirais-je, comment il est pénétré par l'époque. Il est à Chartres ce jour-là.
Ils s'arrêtèrent à Chartres pour en étudier la cathédrale. Nous avons travaillé 12 heures sans nous arrêter. L'admirable monument. De ma vie, je crois n'avoir jamais rien vu d'aussi beau. Nous vivons dans la cathédrale. Il dépeint cette lumière dorée et sombre qui, au milieu de ces énormes piliers, change comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette voûte perdue dans un brouillard jaunâtre, ces grandes statues longues qui, sous les portiques, semblent une vénérable réunion de nos aïeux bénissant leurs arrière-petits-neveux. Tout cela me fait vibrer le cœur et me plonge dans des pensées d'une douceur inexprimable. Et brutalement, ils rompent. Ils disent que je ne suis pas architecte. Je le crois bien. Je ne suis pas architecte pour rogner et torturer le culte catholique dans une basilique grecque. Je ne suis pas architecte pour mettre un souverain dans un salon décoré avec de la sculpture. Le soir, à la tombée du jour, il quitte à regret ce jubé couvert de figures qui retracent la plus belle histoire du monde. Les larmes me coulent dans les yeux et je voudrais que ma vie s'éteignît avec les clartés des vitraux. Viollet-le-Duc était resté 10 jours entiers dans la cathédrale de Chartres. Jamais tant d'incertitudes ne s'est trouvé réunies à un si grand désir de savoir. Désir qui me pousse, comme malgré moi, me fait chercher un système à suivre pendant les journées entières. Qui pourra me dire où est nichée la science ?
Et ce beau texte, c'est dans L'art et la matière que vous l'entendez et nous sommes en train de parler, vous l'avez compris, de Viollet-le-Duc que nous venons d'entendre dans une expérience fondatrice pour lui, probablement ces 15 jours à Chartres où il essaye de savoir comment trouver la science. C'est très très beau. Et alors, peut-être ça serait intéressant à ce stade de notre émission d'évoquer peut-être une autre question. C'était quoi d'ailleurs ?
Vous avez parlé de Saint-Denis, c'est ça ?
Mais oui, parce que à Saint-Denis, son mauvais caractère s'est imposé. Il y avait une réalisation faite par des architectes académiques qui était complètement ratée et ça a été une grande dispute.
Oui, c'est-à-dire que c'était parti déjà de la commission des monuments historiques. À la commission des monuments historiques, Vité, le Normand, Mérimée, avait été absolument indigné de la manière dont Debré avait traité les tombeaux des rois de France et avait manipulé, si vous voulez, il avait fait quelque chose qui rappelait le noir, mais on était 20 ans ou 25 ans après. Donc on travaillait plus de la même façon, on ne connaissait plus, on ne traitait plus l'époque mérovingienne ou carolingienne de cette manière. Et donc il y avait un précédent. Et en fait, la commission ne voulait plus de Debré. Et ça a été très difficile et il y a eu changement effectivement d'architecte parce que on a donné beaucoup d'argent, Montalembert a tempêté là-dessus à la chambre, on a donné une somme considérable, je ne sais plus combien de millions, pour remonter la flèche de gauche, la flèche nord de Saint-Denis.
De sujet,
et puis,
en fait.
À peine, oui, mais enfin, dès que c'était terminé, la façade s'affaissait. Parce que, enfin, apparemment, il y a un problème de sous-sol en réalité. Donc, il faudrait couler du béton plutôt que de.
Vous auriez remonté la.
La question se pose aujourd'hui.
Oui.
Il y a un projet.
Oui.
Le chantier devrait commencer. Ça a été décidé.
Ben oui, mais alors c'est ça.
C'est une flèche.
C'est la flèche.
C'est la flèche qui a été construite.
Elle a été remontée. Et quand on s'est aperçu que la façade risquait d'être complètement abîmée, alors, la façade, c'était quand même le morceau de bravoure de cette église. Et donc, on a déposé, si vous voulez. On l'a déposé. On n'a pas attendu qu'il s'effondre. Oui.
Alors, une des dernières questions que j'aimerais vous poser, c'est un moment où Viollet-le-Duc recommande pour les nouvelles églises de s'inspirer du gothique parce que c'est une architecture moderne, parce que c'est une architecture en suspension, légère, peu complexe et moins lourde et en matériaux à réaliser. Donc il y voit des principes constructifs ultra modernes qu'on reverra, c'est exactement les mêmes que l'architecture en tension du Centre Pompidou par exemple, hein, c'est les mêmes principes. Est-ce que c'est un architecte moderne ? Est-ce que c'est un architecte
architecte utile à l'invention de la modernité à cette époque-là. Adrien.
Moi, je crois. Je pense que c'est ses travaux théoriques, les dessins où il imagine
les entretiens.
Dans les habitations modernes,
il y a des tas de choses, des tas d'idées. Et les gens des années 1890-1900 se sont reconnus.
L'utilisation du métal, tout le monde, il a compris des choses qui ensuite se retrouvent du côté de l'école de Chicago.
Ça a été un grand pédagogue. Il a aussi été quand même assez largement à l'origine de l'art nouveau. Enfin, il y a un héritage Viollet-le-Duc qui est
dans l'art nouveau, c'est certain. Vous avez raison.
Il va directement du néo-gothique à l'art nouveau.
Absolument. Oui, c'est tout à fait juste. On dit souvent qu'il en est le fondateur d'une certaine façon. Oui. Alors, c'était un bon pédagogue. Il s'est fait virer par les élèves insupportables de l'école des Beaux-Arts qui lui ont fait un chahut.
Oui. Ils le sont toujours.
Parce qu'il n'était pas tenu par leur directeur. Donc, ce pauvre Viollet-le-Duc en a fait les frais.
Et parce qu'il avait voulu faire une réforme. Et là, il avait, à mon avis, eu tort. Puisqu'il n'avait pas voulu faire l'école des Beaux-Arts, il n'aurait pas dû se lancer dans la réforme de l'école des Beaux-Arts.
Mais il a écrit des petits livres géniaux à la fin.
Oui. Edsel,
l'éditeur de Jules Verne, publie de Viollet-le-Duc.
Pour les gens qui avaient 14-15 ans,
voilà, c'est formidable. Il s'adresse aux enfants ou aux adolescents, et c'est l'histoire d'une maison, l'histoire d'une cathédrale et d'un hôtel de ville, les deux dans le même livre.
Et la forteresse.
C'est le peuple, l'histoire d'une forteresse imaginaire.
Et à propos de l'histoire
aujourd'hui. Olivier, parlez pas tous en même temps.
On est trop enthousiaste.
D'un homme et une cathédrale, on ne peut pas s'empêcher de penser à Gaudi, qui lui. Alors la grande différence, c'est que Viollet-le-Duc était non croyant, alors que Gaudi était éminemment. Mais dans ce rapport fusionnel au monument, jusqu'à, comme le disait Adrien Goetz, créer les moindres détails du mobilier, dans ce rapport passionné, il y a au moins Gaudi comme héritier de Viollet-le-Duc.
C'est certainement aussi un incroyable. Vous parliez tout à l'heure, Adrien, des tableaux qu'il fait, des gravures qu'il fait, des dessins qu'il fait, et au fond presque 200, des centaines de livres en tout cas.
Ah oui, absolument.
250 livres, pas loin de 250 ouvrages sur l'architecture. Quel travailleur, quoi.
Mais le dictionnaire, c'est une œuvre fabuleuse.
Et ça fait 40 ans qu'on étudie Viollet-le-Duc, la grande exposition fondatrice 1980, Bruno Foucart. Oui. On a l'impression aujourd'hui qu'on repart à zéro, que tout ça n'a servi à rien.
Ça compte pas, et on raconte toujours les mêmes choses.
Heureusement qu'il y a votre émission, parce que tout ce travail de recherche et de réhabilitation, Carcassonne a été inscrit par l'UNESCO, y compris Viollet-le-Duc,
je faisais partie de la délégation. Voilà. Ils ne voulaient pas inscrire Carcassonne.
Carcassonne,
on a dit que c'était une œuvre du 19e siècle.
Voilà. Laissons la reine Carcasse quelques instants sonner. Et juste, il nous reste une minute. J'aimerais que vous rappeliez, si vous voulez bien, François, ce que Viollet-le-Duc s'est passionné pour des phénomènes qui étaient beaucoup plus anciens, des millions de millions d'années, en essayant d'étudier l'érosion du Mont Blanc.
Voilà.
C'est quoi l'idée, en une minute?
Alors, d'abord, il a fait la carte du Mont Blanc.
Oui.
Alors qu'il y avait les départements qui venaient d'être réunis à la France, à Savoie. Et ensuite, il a eu l'idée de... Enfin, il était passionné par l'idée de l'érosion. Et il voulait retrouver ce que pouvaient être les glaciers quelques milliers d'années ou milliards d'années avant. Quelle avait été l'érosion de la montagne, de la roche, et comment on en était arrivé là au glacier.
Cette volonté de tout saisir est extraordinaire, et les dessins qu'il en fait pour essayer de trouver la géométrie qui est derrière
couleurs,
la construction des montagnes, et les couleurs sont magnifiques.
Oui.
Merci infiniment à tous les trois, merci Françoise, merci Olivier, merci Adrien.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était l'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Françoise Bercé pour son ouvrage aux éditions du patrimoine Viollet-le-Duc, Olivier Dutailly pour son ouvrage chez Albin Michel, Une aventure monumentale qui raconte la naissance de l'aventure des monuments historiques, et évidemment le livre qui est sorti quasiment il y a quelques heures, Adrien Goetz, Notre-Dame de l'humanité chez Grasset. Les droits de cet ouvrage sont versés à la Fondation du patrimoine et nous avons ensemble essayer d'imaginer le paysage de cette naissance des monuments historiques. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr.
Lecture des textes Adama Diop et Hélène Losseur, une émission préparée par Héloïse Alluin et conçue en collaboration avec Seam Boutata, merci Seam. Prise de son Philippe Mercher, réalisation Thomas Jost. Et la semaine prochaine, nous parlerons de l'exposition qui a lieu en ce moment au Centre Georges Pompidou, La Préhistoire, une énigme moderne. À 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.